9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin, ça va être à vos super-héros avec mon invité. Il s'appelle Jean-François Marmion. Si j'enlève le Jean, il va vous en manquer un bout.
Ce serait dommage.
Exactement. Vous êtes psychologue de formation, vous êtes journaliste scientifique et depuis plusieurs années, vous êtes spécialisé dans la vulgarisation de la psychologie que vous abordez de manière ludique à travers des livres, hein, beaucoup de livres d'ailleurs. Et vous publiez Psychopop, une plongée déconnante dans la psychologie des héros et anti-héros aux éditions de Bock. Et la connerie, ça vous connaît.
Oui.
Puisque vous avez été, pardon, moi, avec.
Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Voilà, tout le respect que je vous dois. Vous avez été conologue pendant quelques années. Vous a rapporté même beaucoup d'argent, la conologie.
Oh, pas assez.
Pas assez. Hein, puisque vous avez écrit un livre, hein, pour lequel vous
avez trois livres
sur la.
Je dirigeais trois livres.
Sur la connerie humaine. Ouais.
Trois livres où, de chacun desquels, j'invitais une trentaine de chercheurs à s'exprimer dans la connerie. Donc, il y a eu un livre sur la psychologie de la connerie, un livre sur la psychologie de la connerie en politique, et un livre sur l'histoire universelle de la connerie. Donc, près d'une centaine de chercheurs ont travaillé avec moi.
Et comment vous définissez la connerie?
Il y a beaucoup de définitions possibles, mais bon.
Mais votre définition de la connerie.
Je dirais qu'il y a une double définition. Il y a une définition objective, ce serait quelqu'un qui, objectivement, serait reconnu comme con, suivant une définition consensuelle par les observateurs indépendants, etc. Bon, c'est pas facile. Et il y a une définition subjective, c'est que le con, c'est celui que je trouve moins bien que moi. Voilà. Et on rejoint de la philo, là.
Ouais, d'accord. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux.
Autant qu'ailleurs. À mon avis, pas plus, mais comme partout ailleurs, on braque davantage notre attention sur ceux qu'on trouve les plus cons, ceux qui provoquent le plus de colère, le plus d'émotions négatives en nous, et on a tendance à occulter le reste, ce qui est bien dommage. Mais je ne pense pas qu'il y en ait proportionnellement plus sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Simplement, on les voit bien, surtout si on veut voir que cela.
Ils sont visibles, en fait. Mais finalement, la connerie, comme vous dites, c'est pas l'ignorance. Hein.
Non, il y a des cons très cultivés et très intelligents. C'est plutôt ce qu'en philosophie, on appelait le contraire de la sagesse, c'est-à-dire la folie, avant que la folie devienne un terme confisqué par la psychiatrie. Le fou, c'était l'insensé, c'est celui qui n'avait pas le sens commun, c'était celui qui était le plus éloigné de la sagesse. Le but de la philo, c'était d'être le moins fou possible et le plus sage possible.
Alors, dans votre nouveau livre qui s'appelle Psychopop, vous êtes parti de troubles, ouais, de troubles psy, et que vous illustrez avec des figures de la culture pop. Pour tout le monde, qu'est-ce que vous appelez la culture pop? C'est large, hein?
C'est large, c'est comme la connerie, il y a beaucoup de définitions possibles. Disons que la culture pop, c'est peut-être quelque chose qui est connu par le plus grand nombre, et qui touche le plus grand nombre. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas seulement quelque chose que tout le monde connaît. C'est quelque chose qui touche les émotions universelles. Je vous donne un exemple. Pas plus tard qu'hier, par hasard, je suis tombé sur Internet sur un mec d'une vingtaine d'années qui écoutait pour la première fois Let It Be des Beatles. Et visiblement, d'habitude, il écoute du rap. Donc, il a écouté ça pour la première fois. Et au milieu de la chanson, il a arrêté sa vidéo parce qu'il s'est mis à pleurer. C'est-à-dire que la chanson n'avait rien pour lui parler à l'origine, mais dedans, il y a quelque chose qui relève de l'acceptation, justement, de la douleur, d'un deuil. Et on a tous connu ça. Donc ça, c'est un bon exemple de la culture pop. C'est culturel, tout le monde connaît, et ça franchit les époques et aussi les continents. Il y a un truc universel.
C'est un standard. Les Beatles sont assez présents, d'ailleurs, dans votre livre, à travers certains personnages. Et une personnage de méchante, d'ailleurs.
Oui, Yoko Ono.
Qui est Yoko Ono.
Ah, ouais.
Donc, vous intéressez donc à travers la culture pop. Donc, il y a des chansons, il y a des artistes, il y a des stars, il y a des youtubeurs, il y a des gens de la télé-réalité. Il y a des gens, des comics, hein, ce qu'on appelle des super-héros, oui, des acteurs, enfin voilà.
C'est, des chanteurs, oui, un peu de tout.
Ouais, pas trop de sportifs, quand même. Non, pas beaucoup. Mais bon, en tout cas...
On peut considérer que ça fait partie de la culture pop aussi. Peut-être que Zidane ou Mbappé font partie de la culture pop. Mm-hmm. Mais je suis parti plutôt de fiction.
Je vous disais, quand vous êtes arrivé, que je trouvais que c'était une super idée. Elle n'est pas de vous. Hein.
Non, elle n'est pas de moi.
Hein, on vous a vendu le projet.
On me l'a donné.
on vous l'a donné. Et vous vous en êtes emparé. Et vous me dites que c'était un genre, puisque par exemple, certains des super-héros ont fait l'objet de livres où on s'est intéressé déjà à leur profil psychologique.
Oui, Batman notamment. Hein, il y a des bouquins sur Batman, et de la part de psychologues, aussi de la part de philosophes. Il y a énormément de bouquins sur Star Wars, sur Harry Potter. J'en ai commis moi-même quelques-uns. Donc, c'est dans l'air du temps. Quoi. Il y a une espèce de reconnaissance de la culture pop qui n'intéresse plus seulement de façon cynique des consommateurs. Non, mais vraiment des gens qui réfléchissent là-dessus parce qu'ils en consomment eux aussi. Quoi. Les gens qui écrivent sur la culture pop, ce n'est pas des intellectuels dans leur tour d'ivoire qui regardent ça de haut. Ils adorent ça.
Ce que je vous disais, c'est que dans les séminaires aujourd'hui, dans les formations, dans les rendez-vous où on fait du dev perso, du développement personnel, aujourd'hui, on vous demande de choisir quel est votre super-héros, auprès de qui vous vous reconnaissez, en fait. Voyez, donc ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui.
Oui, c'est pas la même chose de se reconnaître, je sais pas, dans Wonder Woman ou dans Peter Parker, un Spider-Man, ou dans les Fantastiques.
Ça dépend lequel, Peter Parker d'ailleurs.
Il y a plusieurs Peter Parker, évidemment,
il y en a plusieurs. Donc
je parle du Peter Parker historique, celui qui a dominé la scène depuis 1962.
Ah, pas l'usurpateur.
Non, il y en a plusieurs maintenant, c'est un multivers, il y a plusieurs Spider-Man, pourquoi pas. Ça renouvelle le genre, ça évite aux pauvres scénaristes de tourner en rond depuis des décennies.
Mais qu'est-ce que le héros, alors le héros de fiction, parce que finalement ces gens-là on les connaît pas forcément, hein, qu'est-ce que le héros auquel on va s'identifier, qu'on va aimer, dont on va être fan, dit de nous?
Je pense que ça nous renvoie à notre propre part de vulnérabilité. Parce que le héros lisse, invincible, qui n'a pas vraiment de points faibles, qui gagne toujours à la fin, qui rigole en battant les méchants, c'est intéressant quand on est gamin. Après, on se rend compte que la réalité est un peu plus compliquée que ça, et que les héros les plus intéressants sont ceux qui ont des difficultés, sont ceux qui échouent, sont ceux qui se prennent des volets, sont ceux qui se découragent, qui doutent, et pourtant qui continuent. Parce que ça, on peut tous être amenés à faire ça dans notre vie. On se prend tous des coups durs, on peut capituler, mais tôt ou tard, on n'a pas le choix, faut qu'on remonte, faut qu'on reparte.
Alors, est-ce que ça veut dire que déjà contractuellement, au départ, les scénaristes, hein, ont imaginé des héros avec des fêlures, ou elles sont arrivées après?
Alors, puisqu'on parle des super-héros, le tout premier super-héros historiquement, c'est Superman, et il était invincible. Il venait d'une autre planète, donc quand on lui tirait dessus, les balles ricochaient, il courait plus vite que les locomotives, il pouvait faire des bonds par-dessus les gratte-ciels, il voyait à travers les murs. Qu'est-ce que vous voulez faire contre un type pareil? Vous avez des gangsters qui arrivaient, lui tiraient deux balles, ça lui faisait rien, il les mettait en prison, point barre. Donc les scénaristes ont été obligés d'inventer des monstres, des extraterrestres, un point faible à Superman qui était la kryptonite, etc. Et au fil des décennies...
C'est quoi la kryptonite?
La kryptonite, c'est un morceau de roche de sa planète d'origine, Krypton, qui annule les effets de ses super-pouvoirs sur Terre. Voilà. Et donc au fil des décennies, les héros sont devenus de plus en plus faillibles, notamment dans les années 60 avec Marvel, hein, Stan Lee qui a inventé Spider-Man, les Fantastiques, Iron Man, etc. C'était tous des héros qui avaient une immense défaillance cachée. Daredevil.
C'était finalement dans le script du départ. Il fallait que le héros, il ait une faille.
À partir de Stan Lee. Ouais. À partir de Stan Lee, surtout à partir de Marvel, l'âge d'or de Marvel dans les années 60. Daredevil était aveugle, Iron Man était cardiaque puis alcoolique, Spider-Man était un type harcelé au collège, il touchait pas une bille avec les filles, les quatre fantastiques, ils arrivaient pas à payer le loyer de leur quartier général, ils étaient expulsés. Vous voyez, des trucs comme ça, on n'avait jamais vu ça. Mmh. Et puis il y en a qui pouvaient mourir. Bon, souvent, ils ressuscitent. C'est un peu ça le problème.
Pourquoi? C'était pour que les gens s'identifient plus, ou finalement, c'était le faible qui était fort, ou...
Alors, c'est au fil des années, les comics se sont de plus en plus intéressés à un public adulte, en fait. Donc, c'est-à-dire, on en a fini avec le manichéisme, et ça s'est encore augmenté dans les années 80, où vraiment, des méchants pouvaient devenir gentils, etc. Il y avait... Le thème même du super-héros a été remis en question. Est-ce que ces gens ont vraiment le droit d'agir, après tout, par-dessus les lois, comme ils le font? Donc ça, il y a une espèce de trouble dans le genre du super-héros, si j'ose dire, qui s'est installé au fil des décennies.
Donc, je rappelle, hein, que vous illustrez certains troubles, certaines pathologies, certaines maladies à des personnes qui sont connues pour expliquer ce que c'est. Alors, par exemple, tiens, pour parler de la bipolarité, vous parlez de Kanye West. Alors... Oui, c'est bien vous.
Oui,
avec Kanye West. Alors, Kanye West est-il bipolaire, comme le dit Kim Kardashian, puisque celle qui a parlé le plus de sa bipolarité, c'est Kim Kardashian, en disant « Soyez indulgent, oui. Il est bipolaire ». Alors déjà, la bipolarité, avant on n'appelait pas ça la bipolarité. Hein.
On appelait ça le trouble maniaco-dépressif. C'est-à-dire, c'est des phases d'euphorie, d'exaltation, qui succèdent à des phases d'abattement total. Et donc, c'est un trouble de l'humeur. Et donc, Kanye West dit, je suis un peu n'importe quoi, je le reconnais, mais c'est parce que je suis malade. Et il le proclame, il le revendique. C'est génial, je suis bipolaire. Bon, c'est pas facile, mais c'est ce qui donne ma créativité. Alors après, est-ce que le diagnostic a vraiment été porté par son médecin? J'en sais rien. Est-ce que c'est une excuse pour faire n'importe quoi, comme font les grands rappeurs ou les grandes rockstars, tout ça? C'est tout à fait possible, mais c'est aussi une maladie à la mode. on se disait pas bipolaire comme ça il y a 20 ans. Il y a des phénomènes de mode dans les maladies. Il y a des gens qui aiment bien se reconnaître borderline, il y a des gens qui aiment bien se reconnaître Asperger, il y a des gens qui aiment bien se reconnaître hyperactif, il y a des gens qui aiment bien se reconnaître hypersensible. Et ça dépend.
Ils sont tous dans votre livre. On a du temps. On va justement s'arrêter sur certains troubles qu'on croit connaître, mais finalement dont la définition n'est pas toujours la bonne. Alors, Kanye West, il illustre quoi finalement avec cette bipolarité?
Alors,
À travers le trouble.
Alors, à travers le trouble, ça peut.
C'est quoi? C'est un changement d'humeur? C'est le droit de faire n'importe quoi si on veut?
C'est peut-être une consommation de substances que la morale réprouve, ou la loi. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un produit du star system. Il est tellement adulé que ça monte à la tête de n'importe qui d'être adulé. Bon, bah, lui aussi. Alors, il dit oui, mais c'est parce que je suis bipolaire. En gros, c'est des réactions imprévisibles. Qui peuvent passer pour des caprices si on a un regard un peu distancé là-dessus, pour un pétage de plomb, ou vraiment, peut-être qu'il est vraiment malade. C'est possible. Parce qu'il se soigne bien, je ne sais pas.
D'autres bipolaires dans la culture pop, célèbres?
Bah, ce qui est marrant, c'est.
Et revendiqués?
Bah, revendiqués, pas tellement, mais ce qui est marrant, c'est qu'a posteriori, on pose plein de troubles sur des gens qui ont vécu il y a très longtemps. Parfois, on dit que Mozart lui-même avait ceci ou cela. Alors, il était borderline, ou il était bipolaire, ou il était Asperger. Ou
alors,
il était,
borderline, je suis désolé, personne ne sait exactement ce que c'est.
Alors,
borderline, je suis désolé. Hein.
C'est l'état limite. On est à la limite du rapport à la réalité. On est limite entre la psychose, où on perd le contact avec la réalité, et la névrose, où il y a un truc qui ne va pas, mais on le sait. Et donc, borderline, c'est un état un peu intermédiaire, où il y a des émotions, des réactions émotionnelles très fortes, un grand problème à définir ce qui est vrai ou faux, où on se situe. Enfin, c'est une espèce de... C'est très tangent, et là encore, il y a une part d'imprévisibilité là-dedans.
C'est un trouble, c'est ça, on dit le trouble borderline?
Oui, alors, ça appartient au trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité, c'est à la limite de ce qu'on peut reconnaître comme un diagnostic médical. On peut penser que, bon... Ça se soigne pas vraiment si personne n'en souffre. Si il dit ouais, moi je suis borderline, mais qu'il n'en souffre pas, on va pas trop aller lui prescrire des trucs. En même temps, est-ce que vraiment il n'en souffre pas? Ça se discute, quoi.
Donc Mozart était a priori, on disait de lui qu'il était borderline.
On peut dire de lui qu'il était surdoué, on peut dire de lui plein de trucs, mais c'est valable pour, je sais pas, c'est valable pour Beethoven, dont on a dit plein de trucs, sur Nietzsche. Sur des grandes rockstars, sur Elvis Presley, sur Lou Reed, à chaque fois on dit il veut avoir un problème mental quand même.
Lou Reed, c'était un grand méchant.
On en parlera.
Il avait une belle personnalité. Et j'imagine qu'Elvis Presley avait des troubles peut-être du comportement alimentaire.
Alors à la fin de sa vie, oui, certainement, vu qu'il passait son temps à se gaver, mais il était aussi victime d'une cour de médecins qui lui prescrivait absolument ce qu'il voulait. Donc, il prenait un truc pour dormir, paf, il dormait dans le quart d'heure. Après, on lui a injecté un truc pour qu'il se réveille, qu'il monte sur scène, paf, il se réveille. On voit ça très bien dans le film qui avait été consacré, hein. Et c'est ça qui l'a tué. Le cœur faisait n'importe quoi. En plus, il bouffait n'importe comment. Donc, voilà.
Alors, c'est intéressant parce que vous parlez d'Elvis Presley, mais votre livre commence et débute avec une autre énorme star dont on fête cette année le 40e anniversaire de l'album Thriller, c'est Michael Jackson. On en parlera dans un instant.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec Jean-François Marmion qui est avec nous aujourd'hui. On n'a pas cité l'illustrateur de votre livre,
Kurt.
Qui s'appelle Kurt, super intéressant. Vous publiez Psychopop, une plongée déconnante dans la psychologie des héros et des anti-héros. On parlait tout à l'heure de Michael Jackson, mais en antenne, on nous disait qu'on ne savait pas si c'est parce que Kanye West faisait beaucoup de mélanges qu'il était bipolaire, ou s'il était parce qu'il était bipolaire qu'il faisait des mélanges. Alors, qui a pondu la poule?
Oui, bah, voilà, exactement, c'est le problème de l'œuf ou la poule.
L'œuf, pardon, excusez-moi. J'ai fait trop de mélanges.
Non, mais c'est un vieux débat qui se posait déjà au 19e siècle, quoi. Est-ce que Van Gogh peignait ça parce qu'il avait un grain, ou inversement? Est-ce que Baudelaire était vraiment saint d'esprit? Rimbaud? Quand même, il y a de quoi te poser des questions sur pas mal de choses à son sujet.
Rimbaud et Voltaire dans votre...
Voilà, donc Donc bon. C'est des vieilles questions qui remontent déjà au 19e siècle, hein, où scientifiquement on essayait de démontrer qu'il y avait des lignées de génies, par exemple, dans la famille Darwin. Il y avait plusieurs personnages qui arrivaient à faire des trucs hors normes. Dans la famille de Bach, Jean-Sébastien Bach, il y a eu plusieurs Bach. Dans la famille de Mozart, il y a eu plusieurs Mozart aussi. Hein. Lui, c'est Wolfgang, c'est le plus connu. Mais, hein, sa sœur, par exemple, était une prodige aussi, qui a été complètement occultée par l'histoire, parce que c'est une femme, donc elle n'avait pas le droit d'aller bien loin.
On le répète souvent dans cette émission, l'histoire est injuste.
L'histoire a été écrite par les vainqueurs, on dit souvent. Voilà.
Mmh. Ou par les chasseurs. Donc, si on est un animal.
Voilà, donc les questions sur le génie, est-ce que le génie rend fou? Est-ce que le génie se rend créatif? Est-ce que le génie rend dangereux? C'est des questions qui étaient vraiment prééminentes à la fin du 19e déjà. Hein. On disait que Zola était quelqu'un de dangereux, d'un malade mental par exemple. Parce que c'était pas normal d'écrire ces bouquins-là. Mmh. Donc, et lui, il le revendiquait. Oui, d'accord, je suis malade si vous voulez.
En fait, ces jours-ci, tiens, c'est vraiment maintenant le 40e anniversaire de l'album Thriller de Michael Jackson. Ouais. Et dans votre livre, vous vous intéressez, vous, à la maturité psychologique de Michael Jackson. Quelque temps après la sortie du livre, sort un livre très important qui s'appelle Le syndrome de Peter Pan de Don Cayley. Ouais. On a dit longtemps de Michael Jackson qui souffrait de ce syndrome de Peter Pan. Il avait baptisé son super royaume Neverland. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appliquer le syndrome de Peter Pan à Michael Jackson et expliquer à tout le monde ce que c'est que ce fameux syndrome de Peter Pan?
Alors, le syndrome de Peter Pan, c'est en gros des gens qui refusent le temps qui passe, qui refusent de devenir adultes, qui refusent de vieillir. Alors, au niveau insignifiant, ça peut être des gens qui pratiquent la chirurgie esthétique jusqu'à se défigurer. Non, moi, je vieillis pas, alors qu'on voit très bien que ça devient monstrueux, quoi, parfois. Michael Jackson a un peu versé là-dedans, quoi. Il s'est confectionné sur mesure une espèce de visage idéal, pas tout à fait blanc, pas tout à fait noir, pas tout à fait masculin, pas tout à fait féminin, un peu idéal comme ça. Mais à la fin, son nez a été réduit à une arête de poisson, quoi. Et on voyait que malgré tout, les ravages du temps qui passe. Donc, il disait qu'il n'avait pas eu d'enfance. Qu'il n'avait pas eu d'adolescence parce que
ce qui est vrai
parce qu'il travaillait
très tôt depuis l'âge de 5 ans ils étaient papa, voilà. Il les mettait
travailler comme des esclaves, hein. Les Jackson 5, hein, oui, ouais. bien sûr et donc en quelque sorte il aurait rattrapé le temps perdu en devenant adulte et en devenant fabuleusement riche et fabuleusement admiré et donc il s'est fait construire la propriété de ses rêves, une espèce de pays féerique où il emmenait les autres enfants pour dire je serai enfant avec les autres enfants. Bon, évidemment, on lui a prêté d'autres comportements. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. J'espère qu'il ne s'est rien passé, mais bon, voilà.
Mais en psychologie, ça existe vraiment, ce syndrome de Peter Pan? C'est quand même discuté, hein, comme concept, hein, faut le dire.
Oui, c'est discuté. Disons que ça fait partie de ces syndromes qui sont discutés parce que ça donne une inspiration, quoi. C'est vrai que c'est intéressant de voir des gens comme Michael Jackson à travers cette explication-là. Cela dit, c'est pas reconnu par les classifications psychiatriques.
C'est pour ça que je vous disais que voilà, pour l'instant, on en est encore 40 ans après la découverte et la conceptualisation.
Ouais, voilà. Pas la découverte, la
conceptualisation.
Un type qui a dit tiens, ça devrait exister. Mais il n'y a pas eu suffisamment d'études pour le prouver.
Mais autre chose qui existe à travers le cinéma, ce qu'on avait appelé le syndrome des Tanguis. Hein, ça, c'est... Alors aujourd'hui, c'est devenu un peu les adolescents.
Oui.
Ces adultes qui quittent pas leurs parents et qui restent adolescents. Aujourd'hui, ils font de la trottinette. Ils ont des casques sur la tête. Ils jouent à des jeux en ligne.
Oui. Alors on peut dire qu'ils ont gardé une part d'enfance, ce qui n'est jamais bien grave. Au contraire, c'est plutôt grave de ne plus être enfant du tout. Mais je pense que le regard sur les Tanguis a changé parce que lorsque le film d'Étienne Chatillès est sorti, c'était marrant de voir ce trentenaire, ce grand dadé qui continuait à être le boulet de ses parents, qui ne demandait pas mieux qu'il vive sa vie. Puis lui, non. C'est presque un vaudeville, quoi. Il y a un côté comme ça, une comédie familiale. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de Tanguis aujourd'hui, mais malgré eux. Des gens qui ne peuvent pas partir ou qui sont obligés
pour des raisons économiques, hein.
Pour des raisons économiques, ouais. Qui sont obligés de revenir parfois à 50 ans chez papa maman parce que ils ont pas le choix. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est pas qu'ils ont échoué, c'est parce qu'ils ont tellement de bâtons dans les roues que ils sont les premiers à souffrir, hein. Donc c'est plus le Tanguy d'origine, c'est le Tanguy malgré lui.
Alors, vous dites que finalement, aujourd'hui, alors il y a d'autres antidotes, et le contraire du syndrome de Peter Pan, c'est Poupette, la grand-mère de Sophie Marceau dans La Boum, qui, elle, est physiquement, elle fait son âge, octogénaire, mais qui est jeune dans sa tête.
Voilà, Alors ça, c'est pas le syndrome de Peter Pan. C'est pas quelqu'un qui refuse de vieillir. Poupette, elle se met pas une robe rose et puis un body au-dessus du nombril pour dire regardez, je suis jeune. C'est pas ça. Elle se balade pas en roller comme sa petite fille. Dans sa tête, elle est restée jeune. Ouais, parce qu'elle est restée curieuse, elle est restée amoureuse, elle est restée drôle, elle est restée soucieuse de ce que vivent les jeunes générations. Donc ça, c'est pas le syndrome de Peter Pan du tout. C'est quelqu'un qui reste authentiquement jeune dans sa tête. C'est pas si fréquent autour de nous.
Alors il y a un mot qu'on arrive assez mal à définir et dont on qualifie des gens qui ne sont pas, c'est le mot schizophrène.
Ah oui.
Alors ça. Alors en psy, qu'est-ce que c'est quelque chose de quelqu'un de schizophrène et qu'est-ce qu'il n'est pas aussi?
Alors ce qu'il n'est pas, c'est quelqu'un qui a une double personnalité. C'est quelqu'un qui est Dr Jekyll le jour et Mr Hyde la nuit. C'est le brave type qui la nuit va tuer quelqu'un. C'est pas ça un schizophrène. C'est pas quelqu'un qui est entre deux pôles. C'est quelqu'un plutôt qui a du mal à rester scotché à la réalité. C'est-à-dire qu'il peut entendre des hallucinations. Voir des hallucinations. Il peut entendre des voix. Il peut avoir des choses comme ça. Mais il y a
c'est
aussi
pas quelqu'un qui a deux personnalités. Non. Souvent on dit c'est ouais. Il est schizo, il a une double personnalité.
Non, il peut entendre des voix, il peut, voilà, il y a des choses qui vont pas. Ou alors il y a d'autres types de symptômes qui sont la dépression ou quelqu'un qui est complètement avachi, qui a plus une once d'énergie. Ça peut être de la schizophrénie aussi. Le problème de la schizophrénie, c'est qu'aucun de ces symptômes n'est propre à la schizophrénie. Tous les symptômes que vous trouvez dans la schizophrénie, on peut les trouver ailleurs. Donc le diagnostic est très difficile au point qu'il y a maintenant même des psychiatres qui parlent de schizophrénie au pluriel. Ou il y en a même qui disent qu'il faut plus appeler ça la schizophrénie parce qu'il y a tellement justement de clichés négatifs qui sont attachés aux schizophrènes que les intéressés, les patients disent non mais attendez, je veux plus qu'on parle de moi comme d'un schizophrène, je suis pas ce que vous imaginez. Et le problème c'est que dans le domaine public, si je puis dire, c'est-à-dire dans le langage courant, et ben voilà, schizophrène c'est devenu celui qui a une double personnalité et qui est un assassin potentiel, alors que les schizophrènes sont avant tout dangereux pour eux-mêmes. C'est chez eux qu'on trouve beaucoup un taux de suicide hallucinant.
Autodestruction.
Absolument.
Dans la culture pop, qui illustre la schizophrénie bien?
Alors moi dans le livre j'ai choisi quelqu'un qui est dans Fight Club.
On peut pas le dire pour pas spoiler.
Je peux pas trop en dire. Ouais, voilà. Disons qu'il y a une thématique de la schizophrénie dans Fight Club. Enfin, quelqu'un dont on suit le parcours et puis on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il est pas du tout ce qu'on croyait.
C'est Edward Norton de mémoire.
Oui, voilà. Ouais. Voilà. Mais bon, on va pas en dire plus, mais.
Qui est à la fois un bon psychopathe et un bon schizophrène au cinéma. Il a un bon Hulk. Enfin non, un mauvais Hulk.
Il est Hulk aussi.
Rappelez-vous que c'était planté, cet épisode de Hulk.
Ouais.
Donc il y a lui. C'était. Faut revoir Fight Club si vous l'avez jamais vu. C'est Fincher, c'est ça?
Oui, c'est ça.
David Fincher avec Brad Pitt.
Exactement.
De mémoire.
Ouais.
C'est très bon film. Il a quoi, une trentaine d'années maintenant?
Si. 25, enfin, bon,
ouais,
à peu près.
Ouais. Ouais, c'est les années 90.
Les années 90, je pense. Oui.
Ouais. Fight Club. Revoyez ça, vous allez voir, c'est un excellent. Pour Edward Norton. Alors, la schizophrénie, d'autres troubles que vous évoquez qui sont assez mal définis, c'est les parano. Alors souvent, on dit de quelqu'un, oh là là, lui, il est parano. Dans votre livre, vous prenez l'exemple d'un parano assumé et contrôlé.
Salvador Dalí, voilà.
Ouais. Lui, il fout du chocolat là.
Par exemple, le parano, on croit toujours que c'est quelqu'un qui est persuadé que tout le monde lui en veut. Bon, évidemment, ça peut arriver que le parano soit comme ça, mais le parano, c'est quelqu'un qui construit sa propre logique parallèle à la réalité et qui est tout à fait cohérente. C'est très difficile de convaincre, de prendre un paranoïaque en défaut, quoi. Il a réponse à tout, sa logique est tellement remarquable qu'elle est quasiment inattaquable. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'elle ne colle pas à la réalité, quoi. Et Dalí avait très bien repéré ça chez lui, il en a joué. C'est-à-dire qu'il a inventé la méthode paranoïaque critique. Il disait lui-même qu'il ne savait pas en quoi ça consistait, mais enfin, c'est ce qu'il appliquait. C'était une espèce d'observation de ses propres délires et de mise en scène de ses délires, à la fois dans son personnage public et dans ses œuvres. Voilà, ses œuvres surréalistes qui sont vraiment proprement hallucinées, quoi. Et en même temps, son personnage public, bon, il savait très bien en jouer, hein, il en rajoutait un petit peu aussi.
Dans la culture pop, il y a des parano célèbres ou des héros célèbres, à part Dalí.
Alors oui, il faut juste que je les trouve à brûle-pourpoint.
Sinon, on peut en parler après la pub. Vous savez aussi, vous pouvez.
Oui.
Vous avez le temps d'une publicité réfléchir au parano célèbre.
Laissez venir la pub.
Voilà.
Vous en trouvez un ou deux.
Et on continue. Donc, on va parler de qui les psychopathes. Tiens. Ok. Ça, c'est bien les psychopathes.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors c'est une super idée, j'ai pris un plaisir monstre à lire le livre de mon invité Jean-François Marmion qui s'appelle Psychopop, une plongée déconnante dans la psychologie des héros et des anti-héros. Il prend des pathologies, puisque vous êtes psy à l'origine, vous êtes soigné et maintenant vous écrivez des livres. Et vous prenez des pathologies, des troubles et vous les illustrez par des personnages de la culture pop, que ce soit des personnes qui existent vraiment, des chanteurs, des acteurs, mais aussi ça peut être des super-héros, des héros de séries, par exemple Game of Thrones, Big Bang Theory, enfin beaucoup de séries que vous interrogez. Alors on parlait tout à l'heure des parano, on vous a laissé le temps d'une page de publicité qui était toujours très courte, comme vous avez pu le constater sur Beurre FM, parce que vous avez essayé largement de trouver des parano.
Oui. Bah oui, bah alors là, du coup, j'en ai trop, je vais plus avoir le temps d'en parler. Mais enfin, bon, évidemment, il y a Robert De Niro, un taxi driver, qui finit salement par péter les plombs dans une espèce d'interprétation parallèle de la réalité.
Les jeunes, là, vous pouvez voir Taxi Driver, Martin Scorsese.
Ouais.
Celui qui a le record de fuck au cinéma.
Oui, évidemment, dans...
C'est Scorsese d'ailleurs ou pas? Parce que je sais même pas d'ailleurs si c'est Scorsese du coup.
Ah si, c'est Scorsese, c'est avec DiCaprio, le loup de Wall Street. Voilà, je crois qu'il y a plus de 500 fuck qui sont prononcés dans dans le top 10 des films comprenant le plus de fuck, Scorsese en a plusieurs quand même. Donc c'est un bon dialoguiste aussi.
Alors il y a Renault,
Renault. Alors Renault, c'est incroyable, lui-même l'explique dans son autobiographie, qui s'appelait Comme un enfant perdu. Il explique comment tout roulait bien pour lui, et puis d'un seul coup, dans les années 90, il était persuadé qu'il y avait un complot contre lui, que les Cubains voulaient l'assassiner.
Un complot cubain
ça contre lui.
Ça ne manque
pas,
hein.
Et donc, il est devenu complètement parano, il le reconnaît lui-même. Il passait son temps enfermé chez lui, avec les stores baissés, à guetter dans la rue et à boire. Et ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté son couple avec la fameuse Dominique, qui était familière à tous les fans de Renaud des premiers albums. Voilà, ça lui a coûté l'alcoolisme. Enfin, c'était...
Dont il paye encore les pots,
les
pots cassés aujourd'hui. Hein.
Ouais, alors qu'on ne s'explique pas vraiment cette vulnérabilité. Pourquoi parano? Pourquoi un complot cubain? Alors apparemment, il avait fait si je me souviens bien, il avait fait un séjour qui ne s'était pas très bien passé. Et pourquoi parano? Peut-être qu'on a tous une espèce de talon d'Achille, qu'on a tous une vulnérabilité psychique, et que quand il y a un stress trop grand, un événement négatif dans la vie, ou avec l'usure, avec le temps, ça se déclenche. Voilà. Je ne sais pas ce que je serai moi-même dans quelques années, on verra.
Après quelques centaines de livres, vous verrez. Comment est-ce que vous regardez GOT, Game of Thrones? Quel regard vous portez sur Game of Thrones et ses personnages, finalement? Est-ce qu'ils trouvent grâce à vos yeux?
Alors, pour moi, beaucoup de personnages là-dedans sont très intéressants parce qu'ils ne sont pas si manichéens que ça. Il y a des vilains méchants au début de la série qui s'humanisent parce qu'on comprend mieux leurs intentions, on comprend mieux leurs motivations. Ils sont, malgré ce qu'ils font, ils sont un peu plus sympathiques. Inversement, il y a des gentils qui peuvent être amenés à faire des horreurs. Donc, il n'y a pas ce manichéisme qui je trouve, nuit à toutes les histoires d'héroïsme. C'est des gens complexes. Comme nous, ils sont capables du meilleur, ils sont capables du pire. Bon, certains sont vraiment capables du pire au-delà de l'imaginable. Et je me régale de temps en temps en voyant sur le net des gens qui sont filmés en train de regarder les épisodes de Game of Thrones. Et il y a certains épisodes que je vais pas spoiler, mais on voit les gens hurler d'une seconde à l'autre, hurler, sauter de leur siège, se cacher derrière leur siège, parce qu'il y a un truc tellement imprévisible, tellement énorme, qui va tellement bousculer la série que... ils vont rester, je crois, traumatisés pendant un petit moment.
Alors, il y a un méchant qui réunit quatre ingrédients, c'est le Joker.
Ah, le Joker réunit la tétrade noire de la personnalité.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Alors, dedans, il y a quatre ingrédients qui sont séparément horribles, mais alors les quatre en même temps, je ne vous explique pas. Donc, il y a la psychopathie, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement insensible aux émotions des autres. Il y a le sadisme. C'est-à-dire quelqu'un qui adore faire souffrir les autres et se régaler de ses horreurs. Il y a le machiavélisme, quelqu'un qui peut échafauder des plans extrêmement compliqués pour arriver à ses fins. Et il y a le narcissisme, parce qu'en plus, il est très content de lui. Voilà. Et donc le Joker.
Mais toutes les versions du Joker ont eu ces quatre ingrédients.
Non.
Et c'est la dernière version du Joker.
Non, non. C'est vraiment au fil des décennies. Le Joker existe depuis les tout débuts de Batman 1940, je crois. 40 ou 41, le Joker est apparu. Enfin, très tôt. Et au début, bah, c'était une espèce de clown, quoi. C'était un plaisantin sympathique, habillé de façon marrante, un gangster qui lançait des gaz avec sa petite fleur à la boutonnière, qui jouait des bons tours. Et puis au fil des décennies, c'est devenu un clown sadique. C'est quand même un type qui a tué Robin, l'acolyte de Batman, enfin un des Robins. Il a tué le deuxième Robin. À coup de barre de fer. Ensuite, le mec était pas tout à fait mort. Il l'a enfermé dans un entrepôt. Il l'a fait sauter. Alors là, qu'est-ce qui se passe? En plus, dans les années 80, en 88, il a tiré sur Barbara Gordon, qui était une acolyte de Batman et qui s'est retrouvée pendant des décennies dans un fauteuil roulant. Bref, le type est devenu franchement inquiétant. Et nouvelle métamorphose. Alors là, depuis qu'il a été incarné par Joaquin Phoenix au cinéma, il devient une espèce de revendication. Un peu le mec un peu paumé, mais qui réagit contre le système, contre les inégalités.
Oui, parce que ça explique finalement pourquoi il devient comme ça.
Oui, c'est-à-dire
le fait d'avoir été battu.
Voilà, dans le film, c'est une victime. Hein,
ouais, très clairement,
il est même handicapé. Et il peut pas s'empêcher de rire au plus mauvais moment, mais c'est parce qu'il y a vraiment un truc neurologique qui le pousse à le faire. Et donc il devient clown pour se venger d'une société qui refuse les gens comme lui. Et du coup, il y a plein de spectateurs qui se reconnaissent en lui. Et donc le Joker est en train de devenir une espèce de héros. Il y a même une série qui se passe dans un monde parallèle. C'est pas vraiment le monde de la continuité de Batman, mais c'est quand même une série de Batman où le Joker guérit. Il devient gentil et on s'aperçoit que c'est Batman le méchant, parce que c'est Batman qui agit, qui fait le bien et le mal, qui décrète qui doit aller en prison ou qui ne doit pas, indépendamment de la police, indépendamment des lois. Il a ses propres lois, il fait des dégâts en se battant. Bref, le Joker devient le gentil. Donc il y a toute sorte d'interprétations possibles du Joker, depuis le simple clown jusqu'au clown sadique, le tueur, jusqu'au type qui a créé Harley Quinn et puis qui l'a lâché comme une chaussette après une histoire d'amour unilatérale, on va dire. Voilà.
Alors, on va s'intéresser aux psychopathes. Et c'est vrai que les personnages de psychopathes, c'est bien incarné. En tout cas, ils ont souvent du succès à l'écran. C'est quoi la différence entre un psychopathe et un sociopathe, déjà?
Alors, le sociopathe, il est pas très à l'aise avec les autres, avec les émotions des autres, avec la société. Mais enfin, il peut donner illusion, quoi. Il s'intègre quand même d'une façon ou d'une autre. Il réagit à la société. Le psychopathe, il est vraiment en dehors, quoi. C'est une espèce de spectateur de tout ça, du spectateur des êtres humains. Il n'a pas d'empathie. Il s'intéresse pas à ce que les gens ressentent. Il s'intéresse pas à ce qu'il provoque chez les autres. Il y a que ses buts à lui qui comptent. C'est pour ça que c'est un méchant redoutable, parce qu'il connaît pas la pitié. Et s'il est machiavélique, il va jusqu'au bout de son truc.
Alors, quels sont les psychopathes assumés de la culture pop?
Bah, assumés, il y en a deux grands. C'est Voldemort dans Harry Potter. Alors là, J.K. Rowling a dit elle-même, il est psychopathe. Effectivement, c'est un...
Qu'est-ce qui caractérise la psychopathie chez lui, par exemple?
Chez lui, c'est cette espèce de volonté de puissance, de toute puissance, et d'écraser les gens qui ne lui ressemblent pas. Les moldus, en l'occurrence. Et les sorciers qui sont complaisants avec les moldus. Donc, bon, en grand clair, c'est une métaphore de Hitler ou d'autres joyeux drilles de ce genre, c'est-à-dire des gens qui ne supportent pas le mélange des peuples, le mélange des cultures, qui a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça et d'exterminer ce qui lui revient pas. Voilà.
Alors, ça, Voldemort, donc c'est le premier, le deuxième.
Il y a un deuxième très grand, c'est Palpatine dans Star Wars.
Vraiment, je pensais à Dexter, moi.
Oui, Dexter aussi. Mais lui, c'est le côté tueur en série. Oui.
Alors, les psychopathes sont pas des tueurs en série. Enfin, les tueurs en série sont pas des psychopathes.
Ah si, les tueurs en série ont un gros problème, mais ils prévoient pas généralement. Les tueurs en série ne prévoient pas leur meurtre. Le plus souvent, ils croisent quelqu'un qui a le malheur d'être là. Ils ont une espèce de pulsion qui les submerge et ils passent à l'acte. Tandis que le psychopathe machiavélique, lui, il est capable de prévoir des plans des années à l'avance, comme ce qu'a fait Palpatine dans Star Wars, un plan qui dure des décennies et qu'il mène à bien justement parce que il est capable de deviner les réactions des autres, il est capable d'anticiper ce que vont faire les autres. C'est un extraordinaire joueur d'échecs, mais il se fout complètement de ce que les autres sentent.
Palpatine,
c'est des pions.
C'était Star Wars.
C'est Star Wars.
Ouais.
C'est littéralement des pions. Donc un pion, ça n'a pas d'émotion. Et ça se manipule à notre guise.
Alors, pour illustrer l'hyperactivité, vous faites appel à Louis de Funès. Est-ce qu'il était vraiment hyperactif
ou... Non. Là, je biaise
juste
un peu.
Pour illustrer.
Voilà. Ouais. C'est, disons que le cliché qu'on a de l'hyperactif, c'est un peu un de Funès. C'est quelqu'un qui saute partout, qui est hyper nerveux et tout ça. Alors, pas du tout. L'hyperactif, c'est quelqu'un qui a avant tout un problème de concentration, un problème d'attention. Et de là peut découler, mais c'est pas obligatoire, peut découler une hyperactivité. Il tient pas en place, il fait 36 trucs. Mais le problème majeur, c'est l'attention. On n'a pas du tout ça chez
vous,
Funès.
Vous inventez une fausse interview dans votre livre. Mourir de rire.
Merci. Je me suis bien amusé.
Pour les troubles du comportement alimentaire, Hannibal Lecter. Donc là, c'est pas très sérieux votre histoire. Est-ce que le cannibalisme est un trouble du comportement alimentaire?
Non, c'est une perversion. C'est une perversion. Mais là, c'est pareil. Je prends l'exemple qui saute le plus aux yeux. Et puis je regarde si ça correspond vraiment. En fait, non, les troubles du comportement alimentaire, c'est pas ça, c'est l'anorexie, c'est la boulimie, c'est des choses comme ça, ou le pica dont je parle dans.
Alors le pica, c'est très peu connu, hein, ce trouble-là.
Ouais. Et pourtant, ça existe. Le pica, ça consiste à manger des trucs qui normalement ne se mangent pas du tout. Et donc il y a des cas spectaculaires de gens qui mangent. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être des cheveux, ça peut être du verre, ça peut être du bois, ça peut être du fer. Et il y a un monsieur mange tout qui est rentré dans le livre des records parce que, alors, de mémoire, il avait avalé plusieurs tonnes de métal. Je crois que c'est 9 tonnes de métal qu'il avait avalé au fil des années, bien sûr, hein, y compris un avion de tourisme qu'il avait coupé en petits morceaux. Voilà. Et Salvador Dali, dont on parlait tout à l'heure, lui, il avait rencontré un étudiant aux Beaux-Arts qui avait mangé une armoire. Il avait pilé morceau par morceau, il avait mangé l'armoire, la glace comprise. Et il est devenu fou.
Le pica de la littérature le plus connu, c'est Averell Dalton.
Ah, bah oui, Averell, lui, mange à peu près n'importe quoi. Bon, c'est quelqu'un qui a un appétit gargantuesque, un peu comme Obélix, mais Obélix, à côté, c'est un fin gourmet. Il mange des sangliers, voilà. Tandis que Averell, il est capable de manger du savon, il est capable de manger la monture sur laquelle il voyageait, parce qu'il avait un petit creux. Enfin bon, c'est plus de la gloutonnerie, lui. C'est vraiment, voilà. Il n'y a pas le côté gourmet dans le pica.
Alors parmi les troubles aujourd'hui qu'on explique mieux, hein, et qui sont beaucoup plus compris par nous tous, c'est l'autisme. L'autiste le plus connu du cinéma, c'est Rainman.
Rainman.
Enfin, c'est le personnage interprété par Dustin Hoffman.
Raymond Babbitt. Hein.
Alors c'est vrai qu'à l'époque, on comprenait pas trop.
Hein. C'est vrai. Ben, ça fait partie des films qui ont permis de mieux faire comprendre ces troubles. Enfin, ce type-là d'autisme, en tout cas. Hein, voilà. Tous les autistes ne sont pas comme ça. On parle de spectre autistique, tellement il y a des autismes qui peuvent être différents. Mais voilà, Rain Man, ça a été un film important pour qu'on cesse de se moquer du syndrome autistique. Et il y en a eu d'autres, je pense notamment, je crois que c'est le 8e jour avec Daniel Auteuil et Benoît Duquesne. Hein, voilà, un comédien qui était trisomique et ça a donné un très beau scénario. Ils ont eu tous les deux le prix d'interprétation. Alors, je ne sais plus où, à Cannes ou au César.
Enfin bon, à Cannes, mais j'en
je pense. Hein, ils ont eu tous les deux le prix d'interprétation, en tout cas. Et voilà, c'est, quand on voit des films comme ça, on change de regard sur les gens concernés. On arrête de se moquer, on arrête d'avoir peur. Voilà, on comprend que c'est des gens qui perçoivent ou qui perçoivent la réalité autrement, qui se comportent autrement, mais qui, voilà, c'est des humains.
Et pour le trouble, Asperger, une série qui a eu un succès énorme aux États-Unis, c'est The Big Bang Theory.
Oui, alors là, c'est l'Asperger versant scientifique. C'est vraiment les gens.
Les petits génies, quoi.
Voilà, c'est les petits génies, les petits génies scientifiques, mais il peut y avoir des Asperger extrêmement doués pour le langage. Et notamment Daniel Tammet, tiens, qui est.
Vous expliquez, il a inventé son propre langage, lui.
Alors lui, il a inventé son langage, il parle je sais pas combien de langues, il est synesthète, c'est-à-dire que les mots correspondent à des images, à des couleurs, à des senteurs qui lui sont propres. Et c'est comme ça qu'il a appris le nombre pi par cœur, qui a des milliers de décimales, je sais pas combien il en a appris, peut-être des milliers en tout cas.
Et les synesthètes, c'est pas si rare que ça, hein?
Non, c'est pas si rare que ça. Il y a même des théories qui disent qu'on serait tous plus ou moins synesthètes, soit dans le ventre de notre mère, soit à la naissance, et puis que le cerveau fait le ménage là-dedans après.
Il a écrit un livre, hein, ta mère.
Il en a écrit plusieurs. Hein, il a écrit Je suis né un jour bleu, dans lequel il raconte ses mémoires.
C'est le grand best-seller. Ouais.
Voilà, mais il a aussi écrit des poèmes, des romans. Enfin, il s'intéresse aux échecs. C'est une espèce d'encyclopédiste.
Jean-François Marmion, Psychopop. Tiens, on va montrer votre livre, hein, une plongée déconnante dans la psychologie des héros et anti-héros. Montrez-le, puisque l'émission est filmée. émission que vous réécouterez. Oh, qu'est-ce qui fait ça bien? On sent le gars qui a été chronologue à la télé. Vous réécouterez l'émission en podcast. Merci, c'est gentil. Vous me le dédicacerez. J'ai beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.